Chapitre 53. Sylvain Massé avait rempli des tasses de café, puis s'était emparé de « Our Last Fucking Bloody Day ». Ce second film ne dure que 18 minutes. C'est, disons, assez délirant. Il s'agit de la préparation et de la réalisation d'un sacrifice humain. Une femme, même endroit. Le jardin, la maison forcément isolée, encore une fois filmée à l'iPhone, et j'ai l'impression que c'est la même patte que pour Atroz. Le même réalisateur, si on peut appeler ça un réalisateur. Je le cale au début, je vais accélérer certaines parties, mais regarde en entier. L'image en noir et blanc tanguait comme un rafiot sur une mer mouvementée. Ça se déroulait la nuit, et une source lumineuse, sans doute une lampe torche, décrivait une sphère d'ombre que l'obscurité mangeait quelques mètres plus loin. On entendait des bruits de pas sur du gravier, sur une allée au milieu d'un jardin. Nicolas n'y voyait pas grand-chose, mais il devinait la maison de la première cassette. L'angle de vue est pris de l'autre côté de la maison, par l'arrière. C'est pour ça que je te dis que c'est isolé. Tu ne ferais pas ça en pleine ville avec des voisins. Des silhouettes solitaires, habillées de noir, attendaient le long du chemin, espacées de quelques mètres, le masque blanc des Anonymous sur le visage. Immobile, pareil à des statues lugubres. Quand la caméra arrivait à leur niveau, elles avançaient telles des robots et accompagnaient le réalisateur. Elles se ressemblaient toutes. Le ciel noir s'illuminait à l'arrière-plan. Deux fois d'affilée, deux éclairs diffus et lointains d'un orage d'été. Nicolas scrutait avec attention chaque détail. Des barges. Ces gens étaient d'absolus détraqués. Le bruit des pas se multipliait. Une fois le seuil de l'habitation franchi, il s'engageait dans un long couloir à la tapisserie arrachée. Au bout, dans l'obscurité la plus complète, dans ce nuage de grains noirs et gris de la bande vidéo, des dizaines de flammes de bougies dansaient. Elles étaient disposées en cercle dans une pièce au mur de pierre, autour d'une femme attachée en croix au pied d'une table retournée. Elle aussi portait un masque de Guy Fawkes. Elle était nue, son corps recouvert des stigmates de coupures, de brûlures, de cicatrices. La procession s'arrêtait. Les masques se répartissaient autour d'elle en un second cercle à un mètre derrière les bougies. L'objectif opérait une sorte de panoramique zoomant sur les faces de cire identiques. La femme gesticulait, se contorsionnait et poussait des hurlements étouffés. Bâillonnait sous son masque sans doute. Nicolas n'arriva pas à terminer son café. Il le reposa sur la table. Son collègue accéléra le défilement de l'image jusqu'à ce qu'une silhouette sorte du groupe et s'agenouille à proximité du corps pour le nettoyer avec un seau et une éponge. Sylvain mit sur pause quand elle tendait le bras vers le corps, se levait et pointait son avant-bras gauche. « L'aigle, c'est la même femme que dans Atroz. J'ai rigoureusement comparé les tatouages. Identiques !» Il avança de quelques images, puis stoppa de nouveau. « Sa phalange est coupée !» constata Nicolas. « Ouais, et ça nous prouve bien que ce film a été tourné après Atroz, donc qu'elle n'est pas morte. » Nicolas éprouva du soulagement, mais il ne se sentait pas serein. Sylvain avait gardé un air grave. La femme au tatouage d'aigle se retirait alors que les masques se rapprochaient dans la nuit, penchés tels des pleines lunes blanches au-dessus du corps. Leurs sourires, leurs moustaches noires, leurs yeux sans expression, Nicolas en dénombra 6 ou 7 comme autour de la fosse dans la forêt de Bondy. Il tenta d'entrevoir des visages derrière. Ces individus devaient avoir des vies sociales, des métiers. Il essaya de voir leurs mains sans succès. Pourtant, Nicolas était persuadé que tout comme la femme au tatouage d'aigle ou le punisseur, ils avaient tous le doigt coupé. Par un effet de mise en scène, le couteau courbé apparaissait à quelques centimètres de l'objectif. Sa lame dansait dans l'air. La main sur le manche était épaisse. Une partie de l'auriculaire gauche manquait. « Ce sont eux, » pensa Nicolas. « Ce sont eux qui ont assisté à la mort de Chevalier. » La caméra changeait de main. « Celui qui filmait jusqu'à présent passe à l'action, » expliqua Sylvain. « Il a confié la caméra à un voisin. » L'objectif montrait d'abord l'homme au couteau de dos. Il était immense. Le masque tenait par un élastique autour d'un crâne chauve en pointe. Les doigts de Nicolas se crispèrent sur ses genoux, alors qu'il se penchait sur l'écran. « c'est lui, bordel !»« Qui ?»« Le tueur de chevalier, le détenteur de ses cassettes, de Manchot. Je suis quasi sûr que c'est lui !» Tous les fils de l'enquête s'entremêlaient. De quand datait le film ? Fabrice Chevalier faisait-il partie de ces observateurs cachés derrière leurs masques ? Qui étaient ces hommes ? Que cherchaient-ils ? Une musique stridente de lames de scie frottées l'une contre l'autre jaillit des haut-parleurs. L'individu au couteau écartait ses jambes pour se retrouver au-dessus de la femme attachée, un pied à gauche de ses hanches, l'autre à droite. L'objectif essayait de capter l'ensemble de la scène, oscillant entre les masques, le corps, le bourreau. Les bouches de plastique riaient, les globes noirs roulaient derrière les trous. L'objectif s'approchait du dos du bourreau. Et d'un seul bloc, l'homme tombait à genoux, le couteau droit tendu devant lui et obstruait la vision du corps. La caméra se troublait à peine une seconde et se décalait pour contourner le dos. Et l'on voyait la lame plantée dans la chair descendre du sternum vers l'abdomen. Le bourreau en sortait le foie et le levait devant lui. Le corps se tordait quelques secondes, oscillait comme un drapeau en plein vent, puis se figeait. Le cercle des masques s'était encore rétréci. Ses sourires assassins jaillissaient de partout et comblaient le vide de la nuit. Nicolas se rendit compte qu'il ne respirait plus, et l'air reflua d'un coup en sifflant dans ses poumons. Il regarda Sylvain, qui acquiesçait avec conviction.
« je sais, je n'ai pas encore capté, mais il y a un truc forcément. Au moment où le mec se baisse avec son couteau, il obstrue le champ et il y a un problème de mise au point de l'objectif. Tout devient flou et on ne voit plus le corps durant une fraction de seconde. C'est à ce moment-là que ça se joue, j'en suis certain. Ce corps éventré, c'est peut-être un faux, un moulage avec des organes d'animaux à l'intérieur, un truc dans ce genre-là. Tu peux me croire, des mecs sont tellement doués que tu ne verrais pas la différence entre un vrai cadavre et un faux. »
Her last fucking bloody day. Le punisseur, avec ce couteau dans la main, n'avait rien d'un acteur. Du fond de son tiroir de morgue, Fabrice Chevalier pouvait en témoigner. Le flic était persuadé que cette fois, il n'était question ni d'effets spéciaux ni de morts simulées. Le clan s'était rassemblé pour assister à un véritable sacrifice. Cette femme s'était fait ouvrir le ventre et arracher le foie. À l'écran, de Manchot posait l'organe sur la poitrine du cadavre, se relevait et se tournait vers l'objectif. Une balafre rouge maculait son masque. D'un coup de tête, il invitait la caméra à s'avancer. L'objectif se rapprochait du sol. Nicolas visualisa sans mal celui qui tenait l'appareil, progressant à demi-baissé, remonter le canyon de l'entaille d'où l'on devinait les jeunes viscères, la gorge encore intacte, mais d'une tragique immobilité. L'objectif s'élevait de quelques centimètres au moment où la main libre du punisseur soulevait le masque de la victime pour dévoiler le visage qui se cachait derrière. Un choc. Nicolas connaissait cette femme.